prenez le verset 2, Vayi, non, pardon, le verset 20, okay. Le deuxième verset. Vayi, Yitzhak ben Avraham Shana, et Isaac était âgé de 40 ans, on n'étudiera pas, pourquoi la Torah nous dit Isaac était âgé de 40 ans. Mais, les cartes de Rivka, lorsqu'il prit Rivka, bat Betuel Arami, fille de Betuel l'Araméen, mi Padan Aram, de Padan Aram, Achot Lavana Arami, sœur de Laban l'Araméen, l'Oleisha pour lui pour femme. Si vous avez déjà entendu, je suppose par vous-même, c'est cette accumulation du rappel du nom de Aram. Ça veut dire c'est par le fait que Rivka est issue d'une famille où l'identité de Aram s'était cristallisée, qu'il y a un obstacle à l'engendrement des enfants de Isaac. J'ai bien schématisé, mais je voudrais que ce soit très clair. La raison pour laquelle la Torah nous accumule ces indications qu'on savait déjà, que Rivka est la fille de Betuel l'Araméen, ils sont de Padan Aram, et elle est la sœur de Laban l'Araméen. Alors retenez bien ça, je vous ai déjà dans les cours précédents, voilà, souvent parlé de cette identité Aram dont il s'agit de se débarrasser pour que les engendrements d'Israël retrouvent l'identité hébraïque. Et alors là, nous avons une première indication qui est paradoxale. Pourquoi il fallait que Isaac épouse Rivka qui est araméenne, bien que et alors que c'est parce qu'elle est araméenne que la suite des engendrements va être significative. Vous avez compris la question ? C'est clair pour tout le monde ? Non. Alors, d'une part, il faut remarquer une chose, c'est que les patriarches vont prendre femme dans la famille d'Abraham originelle. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe où que le patriarche va donner comme consigne pour marier le fils des engendrements. De la même manière, vous vous rappelez que Abraham donne pour consigne à Eliezer de ne pas ramener Isaac, d'où lui Abraham est sorti, et d'aller chercher femme, non pas chez les Cananéens qu'on doit remplacer, mais du pays d'origine, de la famille d'origine d'Abraham. Ça veut dire qu'il y a une identité de valeur, une identité de sainteté cachée dans cette identité araméenne. Je vous en ai parlé à propos de l'autre. Vous vous rappelez qu'en fin de compte, Ruth va venir de cette lignée. Et cependant, cette écorce de l'identité arame est un obstacle. Et je vais reprendre le récit un peu plus haut. Vous retrouverez les textes. Lorsque Eliezer est envoyé par Abraham dans sa famille, dans la famille d'Abraham, chez la famille de son frère qui s'appelait Nahor, vous vous rappelez, et Betuel est le fils de Nahor et le père de Laban et de Rivka. Et alors Eliezer va dans la famille de Nahor, c'est-à-dire la famille de cette identité hébraïque, le frère d'Abraham, qui ne veut pas redevenir hébreu, qui reste araméen, à Padan Aram, c'est clair. Et dans le chemin, Eliezer fait une prière. Enlève ton pied là comme ça. Avec un livre de Torah, tu es assis comme au café. Non, ne me dis pas c'est pour. C'est mal et c'est mal. Et alors il y a dans la prière d'Eliezer un paradoxe, disons. On s'attendrait que dans sa prière, j'espère en tout cas que certains d'entre vous ont déjà lu le texte, il demande à Dieu par quel signe il pourra reconnaître une femme pour Isaac. Or, ce n'est pas du tout ce que dit Eliezer dans sa prière. Il sait lui-même et il dit quel signe. Tout ce qu'il demande à Dieu, c'est que cette femme existe. Je vous ai fait allusion tout à l'heure dans l'introduction à cette difficulté. Il faut toute une série de miracles, entre guillemets, pour que Isaac et Rivka se rencontrent, premièrement, qu'une femme de ce genre existe. Or, Eliezer, je vous rappelle qu'à son récit, dit lui-même, je sais quel genre de femme je dois choisir pour Isaac. Et puis, il va être plus qu'étonné. Il y a un mot en français qui m'échappe, et en hébreu, c'est mishtomem. Ça veut dire lorsqu'il va... Comment ? C'est pas du français. C'est un terme de cuisine, ça. Oui, du français de cuisine. Mais en tout cas, il va être abasourdi que ce miracle existe. Elle existe. Et il va falloir aussi obtenir qu'elle accepte de quitter Haran, de faire le chemin d'Abraham et d'être l'épouse d'Isaac. Il faut aussi qu'elle accepte de faire sa alia. Premièrement, il faut qu'elle existe. Mais deuxièmement, il faut qu'elle vienne. Et vous savez à quel point on vit ces choses-là. On prend femme chez les juifs de diaspora, mais, et pas chez les goyim. Mais il faut aussi qu'elle accepte de faire sa alia. C'est pas une blague, hein, c'est l'histoire de Isaac et Rebecca. Et alors, quel est le signe qu'Eliezer donne? Il dit voilà, si c'est une femme qui donne à boire à mes chameaux et même à moi, je sais qu'elle est. En quoi ce signe? Alors, je vais vous rappeler, et effectivement, la scène est racontée plusieurs fois, et voilà ce qu'il arrive. Il arrive auprès du puits. Et il y a une bergère, Rivka, qui lui offre à boire, qui donne à boire ses chameaux. Alors il dit, je sais que c'est toi. Qu'est-ce qui se passe là? Alors voilà, je reprends le récit de la recherche de l'identité Israël à partir d'Abraham. Et vous vous rappelez, j'avais posé une première question tout au début. Pourquoi faut-il qu'il y ait trois fondateurs de l'identité d'Israël? Pourquoi faut-il qu'il y ait trois tzadikim à l'origine de l'identité d'Israël? Pour toute tradition, il y a un fondateur. Et voilà qu'on s'est habitué, mais ça ne veut pas dire parce qu'on est habitué que ça va de soi, qu'il faut Abraham, Isaac et Jacob pour qu'Israël apparaisse. C'est clair? Alors nous savons que ce sont des tzadikim qui ne sont pas des sosies. Je veux dire au niveau spirituel, parce que physiquement, ils étaient des sosies. Mais... Abraham, Isaac et Jacob sont des tzadikim d'une vertu différente. Et il faut les trois pour que le problème que l'on cherche trouve sa solution, c'est-à-dire la relation de fraternité. Il faut d'abord le tzadik de la vertu de charité. Et qu'est-ce que c'est que la charité? Quand il y a deux sujets en présence, la charité, ça consiste à faire passer l'autre avant moi, qu'il le mérite ou pas. Ça, c'est chesed. Et Abraham, et le tzaddik, la vertu de chesed. Alors qu'on va apprendre que Isaac, c'est le tzaddik de la midat adin. Ça, vous n'avez pas encore étudié. Je vais vous le dire un peu. Isaac est tzaddik par rapport à la rigueur absolue de la justice. Je vais vous dire en quelques mots comment a été l'histoire de sa vie. Il ne pouvait pas naître, vous vous rappelez? Et il est né quand même. Et alors, il faut qu'il paye le prix de son être. Mais le prix de son être, ça ne peut pas être autre chose que son être lui-même. Et quand il est prêt à rendre son être, il l'acquiert. Alors, c'est la misertadine absolue. Par rapport à la misertadine, on ne mérite pas encore d'exister. Et pourtant, on existe par chesed. Alors, il faut payer le prix de ce cadeau de l'existence. Mais le seul prix réel, c'est l'existence elle-même. Alors, quand Isaac est prêt à rendre son être, il l'acquiert. C'est pourquoi, dès que Isaac est prêt au sacrifice, Dieu dit à Abraham, ne le touche pas. C'est acquis. C'est clair? Et donc, pour que Jacob puisse naître, et Jacob est le tzaddik de la Midat al-Rahamim, disons Israël, on ne sait pas encore, il va y en avoir deux, et un conflit entre les deux. Pour que Israël naisse, il faut qu'il y ait une unité des valeurs entre Midat al-Din et Midat al-Chesed. Et par conséquent, la femme pour Isaac doit être une femme de Midat HaChesed. C'est clair? Alors Eliezer sait cela. Si je rencontre une femme charitable, ça veut dire qu'elle est charitable et qui donne à boire à mes chameaux et à moi, à l'étranger, le voyageur, alors je sais qu'elle a la Midat HaChesed, donc c'est clair. Mais c'est clair? Mais c'est pas difficile. Okay? Comment on dit la Midat HaChesed en hébreu? Non. Oui. Il faudrait que vous repreniez mille fois ces mots-là. Chesed et la Hamim, ce n'est pas la même chose. Chesed, c'est la charité absolue. C'est grave. Din, c'est la rigueur, et la Hamim, c'est les deux à la fois. La miséricorde, la Hamim, c'est une charité, que c'est justice qu'elle soit charité. Alors, c'est grave.
Yaakov, c'est la Hamim.
Yaakov, c'est la Hamim. Ça veut dire, pour que Jacob naisse, il faut que Israël, qui est Din, se marie avec Rivka, qui est Chesed. Donc, Eliezer sait à l'avance quel est le signe de la vertu de cette femme qui cherche. Alors, la question que je vous ai posée, En hébreu, ça s'appelle. Vous connaissez la Mishnah, Al Shlosha Dvarim. Al. Ça s'appelle Gemilut Chasadim. Et comment on dit un chameau en hébreu? Gamal. Mais c'est les mêmes lettres que Gemilut Chasadim. Il y a un lien entre les... Quel lien? Cherchez pas. Hein. Mais Chesed, c'est avec les chameaux. Gemilut Chasadim. Donc, en tout cas, on revient à vous. Qu'est-ce que ça veut dire Gemilut Chasadim en hébreu? Ligmol Hasadim, ça veut dire.
Récompensé par des.
Ligmol, c'est pas tellement récompensé. Pas exact. Je vois que tu as compris, mais c'est pas exact. Rétribuer, c'est mieux. Okay. C'est grave. En français, en français.
Faire le bien.
Faire le bien, mais faire, c'est trop général pour Ligmol. Accomplir. Ligmol, c'est accompli. C'est réaliser le chesed par un, comment dire, un échange de bons procédés. C'est l'idée de Gemilut Chasadim. Dans le judéo-arabe traditionnel, que quand on invite quelqu'un, on dit, je traduis du judéo-arabe, mais je traduis en français, fais-moi une charité, viens chez moi. Ça veut dire, celui à qui je fais la charité, en réalité, c'est lui qui me fait la charité. Vous avez compris ce... Et en général, ça a une poésie particulière. Et alors, ça veut dire que cette vertu de charité, qu'Abraham va sortir de l'identité arabe, elle est encore enfouie dans l'identité arabe. Alors, il arrive ce miracle que... Il y a dans la famille de Nahor une femme qui est comme Abraham, Minat Hachesed. Si elle accepte de se marier avec Isaac, Jacob pourrait naître. Enfin, Israël pourrait naître. Vous avez compris le problème. Alors, bien que ça soit enveloppé de cette hérédité araméenne, c'est important de savoir que c'est cette vertu-là qui est. Alors, vous n'étonnez pas qu'il existe pour toutes les valeurs une valeur cachère et une valeur pas si cachère que ça, mais la même. Vous avez la vraie charité et vous avez la fausse charité. Mais bien que la fausse charité soit fausse, c'est quand même la charité. Je vais vous donner un exemple. C'est la charité un peu enveloppée d'impureté, mais c'est de la charité. Par exemple, si quelqu'un accepte d'être trésorier du bureau de bienveillance, et si le bureau de bienveillance n'a pas de trésorier, il ne va pas fonctionner. Alors c'est grâce à quelqu'un, le président, qui accepte de s'occuper du bureau de bienveillance, que la bienveillance va se faire. Seulement voilà, en réalité, il va être président du bureau de bienveillance pour avoir la Légion d'honneur. Alors ça s'appelle chesed sur Touma. Ça veut dire c'est une charité intéressée. Ce n'est pas vraiment de la charité. C'est une stratégie pour accomplir un intérêt que l'on a. Et... Vous découvrirez par la suite que dans le christianisme, la vertu principale, c'est la charité. Ça ne veut pas dire qu'à l'échelle individuelle, il n'y a pas des héros de la charité chez les chrétiens. Je pourrais vous raconter un tas d'histoires que j'ai vécues à l'échelle personnelle et on voit des héros de la charité à l'échelle individuelle. Mais à l'échelle collective de la société chrétienne, cette soi-disant charité, c'est une hypocrisie absolue. Ça, c'est connu. Et cependant, il y a des saints de la charité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des petits frères des pauvres ou des petites sœurs des pauvres, les sœurs ou les frères de Foucault, qui sont vraiment des héros de la charité. Il y a peu de gens qui sont capables de faire ce qu'ils font. Chez nous, il y a les chassidim qui ont ces vertus-là. Mais au point où ça peut être chez eux, c'est rare. Il n'en reste pas moins que c'est à l'intérieur d'une société impure complètement. Une société de gangsters, la société chrétienne. Mais à l'échelle individuelle, il y a des vertus absolues. D'ailleurs, ils sont obligés de se protéger, c'est pour ça qu'ils sont dans des couvents. D'ailleurs, ils s'appellent mon frère, ma soeur, vous allez dire mon frère. Il y a des faux frères aussi. C'est frère, mais faux frère. Okay. Alors, c'est cela. Nous avons là l'explication de notre difficulté. C'est elle, mais elle est handicapée par la clipa aram. Vous y êtes? Ça y est, c'est clair pour tout le monde? Top. Et vous avez entendu parler en moins de la notion du Tartuffe. C'est que c'est un Tartuffe. C'est un homme pieux, mais hypocrite. Ça, ça existe. Alors, il est quand même pieux. Mais voilà, il est hypocrite. Il est Arami. Arami, c'est la même lettre que Ramaï. Qu'est-ce que ça dit, Ramaï ?
Escroc.
Un rusé, Ramaï. Escroc, c'est à côté. Non, Ramaï, c'est un trompeur. C'est un Tartuffe. Il dit, regardez-moi comme je suis pieux. Alors qu'en réalité, il est comédien. Ça me rappelle ce que les dominicains disaient des jésuites. C'est des gens qui mentent, même quand ils disent la vérité. Ça existe. Vous voyez de quoi je parlais ? Moi ?
Et qui ?
Oui. Ouais. Alors il faut féliciter les Dominicains de dire quelque chose de chez lui. Mais le rachat ne dit jamais la vérité. C'est toujours un demi-mensonge. Pour ça, c'est très dangereux d'avoir une demi-vérité. Mais il y a des gens qui disent la vérité est vraie, mais ils mentent. C'est le serpent.
Puisque la femme était princesse, Sarah était dans le titre.
Bien sûr, Gavesh, qu'est-ce que c'est de plus ? C'est le prince du Din, le sardine. Bon, alors voilà pour le verset 2. On continue. Vayerta Yitzhak. L'Hachem le Nocha Rishto. Et Isaac pria face à Rivka, sa femme. Et Nocha, en hébreu, ça a deux sens. Face à face, Nocha. Et Nocha, à l'intention d'eux. Ça veut dire, et Isaac a prié en face de sa femme pour elle. Le Midrash va nous expliquer les deux priés. L'enfant ne peut pas naître. Encore une fois, ce n'est pas qu'il va y en avoir deux. C'est une stratégie des Toladot qu'une difficulté insurmontable est divisée en deux. Habituez-vous déjà à cette idée. Mais a priori, qui on attend ? On attend le fils des Toladot à la troisième génération. Abraham, Isaac, Israël. Et voilà, ce n'est pas Israël qui apparaît. Un couple de jumeaux, Jacob et Ésaü, qui vont se séparer, qui vont se partager une rivalité d'identité. Vous suivez ? Donc, alors là, ça explique les deux priés. Isaac priait pour que Rivka ait un fils, et Rivka priait pour que Isaac ait un fils. Et la Torah va signaler la prière d'Isaac. Je vais finir de lire le verset, après j'explique. Et Isaac pria Hachem face en relation à sa femme, qui a Karaï, car elle était stérile. Va yaraterlo Hachem. Dieu l'exauça à lui. Vatahar Rivka Ishto et Rivka, sa femme, conçue. Alors, du verset précédent, on a appris qu'il y a un obstacle, un empêchement. Cet enfant que l'on attend ne peut pas naître. Parce que s'il naissait, ce serait un monstre. Pourquoi ? Parce que, en tant qu'il est fils d'Isaac, fils d'Abraham, c'est un tzadik. Mais en tant qu'il est fils de Rivka, fille de Bethuel, fille de Nahor, c'est un rachat. Et alors on aurait un être monstrueux qui serait à la fois tzadik et rachat. Alors Dieu empêche. Ça veut dire, l'identité que l'on cherche est impossible à engendrer. On l'apprend du quoi ? On apprend du fait qu'il y a la clipa araméenne, Aram, que Rivka, qui est tzadeket, amène avec son hérédité. Et alors, j'explique ces deux choses. D'abord, quel est le sens de la prière d'Isaac vis-à-vis de Rivka ? Ça veut dire que cet enfant de Isaac et Rivka risque d'être monstrueux. Avant, j'explique un peu ça pour vous, que vous compreniez de quoi je parle. Chez tout homme, il y a un peu cette monstruosité-là. Mais ici, dans l'identité de la famille d'Abraham, ça risque d'être au paroxysme. Chez tout homme, il y a un Yetzer Tov et un Yetzer Ra. C'est clair ? Ça veut dire que tout homme est un petit peu comme ça. Un côté tzadik, un côté rachat. C'est bien compris. Hein. Ceux qui ne sont que tzadikim, c'est très rare, ceux qui ne sont que Rechaim, c'est très rare. En général, tout le monde est dans une identité qu'on appelle en Talmud Benoni. Vous savez ce que ça veut dire Benoni?
Moyen.
Et alors, je vais vous dire que ce, ne croyez pas que c'est une petite chose, Benoni. Les grands du Talmud, les Amoraïm, les disciples de Tanaïm, quand ils discutaient de cela, ils disaient Benoni Keman, c'est en araméen. C'est-à-dire Benoni, par exemple, qui? Ils répondent Anan, nous. Qui dit qui sont Benoni, les grands? C'est clair. Et vous savez qui étaient les Amoraïm? Le Rambam, Maïmonide, les a définis par rapport à notre sujet, en parlant d'eux. Il dit, si c'était des anges, nous sommes des hommes. Si c'était des anges, les Amoraïm, nous sommes des hommes, dit le Rambam. Et si c'était des hommes, nous sommes des ânes. Et c'est le Rambam qui parle. Et par rapport au Rambam, nous, qu'est-ce qu'on est? Je ne sais pas ce que alors, le Benoni, c'est les grands. Hein? Et alors, à un niveau de paroxysme, l'identité hébraïque qui serait d'un côté tzaddik en tant que fils d'Isaac, fils d'Abraham, mais de l'autre côté Rachar en tant que fils de Rivka, fille de Bethuel, fille de Nahor. Vous voyez l'impasse. Alors les deux prient pour que les enfants naissent quand même. Il y a un courage extraordinaire dans cette prière. Après, je vous parlerai du terme pour dire prier. Ici, c'est un terme spécial, Atera. C'est plus que Tfila. Et alors Isaac prie pour qu'au moins Rivka ait un fils. Que ça ne soit pas Israël, mais que Rivka ait un fils. Et puis Rivka prie pour qu'au moins que Isaac ait un fils. Que ça ne soit pas Israël, mais qu'Isaac ait un fils. Ça veut dire, Isaac prie pour que ce que représente Rivka, la Midat Hesed, ça continue. Et Rivka prie pour que ce que représente Isaac, la Midat Hadin, ça continue. Jusqu'à un temps heureux où il pourra y avoir un mariage qui réussira à dépasser cette impossibilité de la naissance de cet Israël qu'on attend. Et vous remarquez que depuis l'origine de notre histoire, la naissance d'Israël est très difficile. Elle est disputée par le monde entier et par les Juifs eux-mêmes. Je veux dire, à l'intérieur et à l'extérieur. Et je me rappelle du temps où le sionisme est apparu. Et alors, quand le sionisme est apparu, les Juifs français ont réagi en disant: c'est très bien pour les apatrides, nous nous sommes français, laissez-nous être français. Les Juifs britanniques ont dit la même chose. Les pires, c'est les Juifs allemands. Quelle horreur! Nous sommes. D'ailleurs, quand les premiers réfugiés Juifs allemands sont arrivés dans le pays, dans les années 30, ils ont dit Galinu Beartsebu. Nous avons été exilés dans notre pays. Vous ne connaissez pas ça? Dans la prière, on dit Galinu Beartsebu. D'ailleurs. Et ça, on a oublié, mais ça continue. Ce qu'on appelle la diaspora, par définition, refuse l'existence d'Israël, sinon pour les apatrides, sinon pour les autres. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire cette existence d'Israël refusée par les goyim, mais refusée par Israël. Enfin, par Israël, par le peuple que ça concerne. Il y a une difficulté intérieure, une difficulté extérieure. Et alors, cette notion de prière, d'après la racine qui est employée, c'est une prière qui demande un miracle. La hator, ça veut dire bouleverser la nature pour que ça arrive quand même. Atera. Et seul Isaac a cette force d'ailleurs. Quand vous réfléchissez bien, dans toute prière, quelle qu'elle soit, il y a un peu de ça. Dans toute prière, on demande au bon Dieu de faire un miracle. C'est pourquoi il y a des règles.
C'est la même chose que la
Tira,
la
Bétina
et
Lyon,
c'est le même mot.
C'est le même mot, Atira, avec un tab, pas Asira, Atira avec un tab, ça. Une supplique, hein, au sens juridique. Et le verset a dit que Dieu a exaucé la prière de Isaac. Dieu exaucant la prière de Isaac, l'enfant qui va naître a un côté qui vient de Aram. Alors c'est ce conflit qui va se dénouer dans la séparation entre Jacob et Isaac. Alors, je vous demande de faire bien attention. Pour le moment, on ne parle pas d'Israël. Le programme de l'identité Israël est mis de côté en attendant. Il y a autre chose qui apparaît. Une stratégie de la Providence qui fait apparaître deux identités jumelles Je ne veux pas dire que c'est des faux jumeaux, parce que c'est des vrais jumeaux biologiquement, mais un, c'est l'inverse de l'autre. Alors, j'ai quand même assez de temps aujourd'hui pour commencer à vous éclairer cela. Verset 22. Vaïm trotsesu avanim bekirba. Et les enfants se couraient l'un derrière l'autre en son sein. Ça veut dire que Rivka sent qu'il y a un conflit à l'intérieur d'elle-même. Elle ne sait pas encore qu'il y a deux jumeaux et qu'ils sont opposés l'un à l'autre. Vatomer, et elle dit, Imken, s'il en est ainsi, la mazéanochi. Pourquoi celui-là, moi? C'est une expression un peu difficile en français, ça veut dire, s'il en est ainsi, pourquoi j'ai été enceinte? Pourquoi j'ai conçu? Ça veut dire, si ce n'est pas Israël que je vais enfanter, mais un conflit. Pourquoi cela m'arrive? Va-t-elle être l'hydroche et Hachem? Et elle est allée rechercher la réponse chez Dieu. Elle va au Beddin de ce temps-là, qui était le Beddin de Shemé Aéver, où le patriarche avait appris des références des Hébreux. Ça, je vous ouvrirai une petite parenthèse, mais vous apprendrez ça. De toutes les générations précédentes, deux des tzadikim des générations précédentes, Shem et Aéver, ont fondé une yeshiva qu'on appelle la yeshiva de Shem et Aéver, et où le patriarche allait apprendre le Derech Eretz qui précède la Torah. Alors elle va au Beddin de Shem et Aéver. Vayomer Hashem, là, et Dieu lui répond, Shnei Goyim Bevitner, il y a deux nations en ton sein, ou Shnei Leumim, et deux peuples-là, Mimeraïch et Paredou, dès tes entrailles se sépareront, ou l'homme il est homme yémat, et un peuple triomphera de l'autre, verra via avot saïr. Et le plus nombreux servira le plus jeune. Je continue et après je reviens sur le texte. Vaïm leu yamer redet, ses jours furent emplis d'enfanté, vein et tomin de vitna, et voici deux jumeaux étaient en son sein. Regardez bien que le mot de « tomim » est écrit pas de manière normale. Comment il devrait être écrit pour dire « jumeaux » ?« Théomim ». Il y a un « aleph ». Un « aleph » qui a disparu. « Vayetzarishon admoni » et le premier est sorti « roux »« Kulo kadeletzerar » tout entier comme une tunique de poil. « Vayikreu shemo esav » et ils nommèrent son nom « esav ».« Esav » ça veut dire, d'après l'explication de Rashi, déjà complètement fait. Asouï en hébreu. Essayez de voir le mot. Aïn, sin, vav, yud, asouï, fait. Comme Caïn, déjà acquis. Asouï, déjà fait. Et il s'appelle Esa. D'ailleurs, ce mot-là, on retrouvera les mêmes lettres dans le nom que les chrétiens ont donné à leur Messie. C'est les mêmes lettres que Esa. Vaïm Léo, Yamea, Lalédet, je reprends le verset, et ses jours furent emplis pour l'enfantement, Veine, Tomim et Vidna, et voici deux jumeaux en son sein. Et la Torah nous décrit le premier des jumeaux, Vaïetse Arishon Anoni, le premier est sorti roux, Kuloka de Retsehar, déjà, Rashi va expliquer, poilu comme un adulte. Alors ils le nommèrent Esav, ça veut dire déjà accompli. Et ensuite sortit son frère, et sa main attrapant le talon d'Ésaü, il nomma son nom Yaakov du nom de Akev, le talon. Donc Jacob, étymologiquement, ça veut dire le talonneur, celui qui attrape le talon de l'autre. Et Isaac était âgé de 70 ans, Bélezé-Soutane, lorsqu'il les a enfantés, engendrés, puisque c'est un homme. Je lis encore un verset, non, deux versets. Vaïdeloanéali, et les enfants grandirent. Vaï Esav Yodéasaï, et Esaü devint un homme connaissant la chasse. Ishsadé, un homme du champ. Yaakov Ishtam, et Jacob était un homme paisible. Yoshevo Alim, résident dans les tentes. Vayeha Vitzrak Vaisav, Isaïd Befi, et Isaac Emma Esaü, car le goût du gibier était dans sa bouche. Rivka avait été Yaakov et Rivka aimait Jacob. Bon, puisque je ne sais pas si on aura le temps d'élucider tout ça aujourd'hui, mais vous voyez, ce qu'on apprend déjà, c'est que cet enfant qui doit être Israël est impossible à naître parce que la partie de son identité qui ferait de lui un tzaddik vient d'Abraham et d'Isaac, mais la partie de son identité qui vient de sa mère, et c'est la seule mère qu'il peut avoir, la partie de cette partie d'identité vient de l'identité araméenne. Et comme j'ai dit tout à l'heure, retenez bien la formule, il disait à la fois tzaddik et racha. C'est-à-dire qu'il y a une tragédie qui apparaît là. Hein. L'être que l'on attend pour résoudre le problème de l'identité du fils de l'homme est impossible. Et alors, c'est le problème de Adam et Chava repris dans l'identité de la famille d'Abraham. Et là, on voit que ça devient impossible. Comment faire un homme qui soit à la fois charitable et juste? C'est cette impossibilité de l'identité Israël. Et il faudra par la suite que vous compreniez bien cela. La Torah n'est pas révélée à Abraham, la Torah n'est pas révélée à Isaac, la Torah est révélée à Jacob. Pourquoi? Quel est le verset d'abord qui nous apprend que c'est à Jacob que la Torah est révélée? Il y a un verset que vous connaissez. Torah. Ça veut dire, le verset nous dit, la Torah que nous a ordonné Moïse est l'héritage de l'assemblée de Jacob. Et pourquoi pas Abraham et Isaac? Qui peut répondre? On a déjà étudié ça.